tous, Yolande au micro pour cette matinale où je reçois Jérémy Duval. Bonjour Jérémy.
Bonjour Yolande.
Alors Jérémy, on le connaît déjà hein, parce qu'il a participé à un protestant peut en cacher un autre il y a un certain temps, je crois que c'était au mois d'octobre.
Oui, c'est ça, dans mon souvenir.
Et puis très récemment, un thème et anathème sur l'expérience Bible et cirque donc menée pendant un an. Quand on a enregistré thème et anathème, donc sur l'expérience Bible et cirque, Jérémy, vous avez souhaité vous consacrer uniquement à l'aspect pédagogique, au plaisir de cette expérience, que vous allez rappeler rapidement en deux mots pour les auditeurs qui auraient oublié ou qui n'auraient pas écouté.
Voilà, Bible et cirque, je profite de l'expérience de ma femme dans l'animation et avec les arts des arts du cirque, parce que je suis en paroisse et qu'on me demande d'assurer le caté et que je n'ai pas l'âme d'animateur. Et on construit un projet, Bible et cirque, avec mon épouse, qu'on propose au conseil. Le conseil est d'accord et on passe une super année. Voilà. Donc, avec une méthode simple, je lis le texte biblique avec mon épouse à ce moment-là.
Oui, vous êtes pasteur.
Voilà, je suis pasteur. Je lis le texte biblique avec mon épouse qui connaît pas grand-chose à la Bible. Et on construit une séance autour des questions qu'elle pose, des questions très simples parce qu'elle n'a pas de connaissances, du coup, à portée d'enfant. Et ensuite, on construit avec des outils, des arts du cirque. Des jeux de théâtre, de jonglage, de portée, un rapport au corps, et pour proposer une entrée, une façon d'entrer dans le texte biblique avec les enfants. Et voilà.
Et là, tout se passe bien.
Cette année, c'était très bien passé.
Tout le monde est content.
Tout le monde est content. Moi-même, alors que j'aime, je suis pas versé, et j'avais un regard assez négatif sur l'animation, moi-même, je suis content.
Bon, et donc, pas de problème, tout se passe bien, et un avenir, un projet d'avenir avec d'autres...
Ah bah oui, parce que le groupe de caté va être amputé des grands, hein, des post-catés qui font d'ailleurs savoir qu'ils ont quelques copains, et on comprend à la fin du mois de mai-juin qu'on peut ouvrir un post-caté avec peut-être si le projet est alléchant, 6-8 jeunes qui, alors on est à la campagne, qui vont partir en internat à la rentrée, mais qu'on pourrait rassembler un week-end de septembre, et on propose un projet de voyage à la Toussaint pour aller au festival de cirque de Auch, le plus vieux festival de cirque en France, cirque contemporain, avec ces 6-8 jeunes, je crois que c'était plutôt 6, ma femme et moi.
Et alors, je reviens maintenant dans l'émission encore précédente de Un protestant peut en cacher un autre. Vous avez évoqué votre abandon du pastorat. Vous nous aviez dit que c'était pour des raisons personnelles, que vous aviez évoqué des raisons familiales.
Tout à fait, oui. Oui. Mon épouse me fait savoir que je suis pas assez présent à la maison. Et en fait, bien avant mon épouse, plusieurs semaines avant, c'est mon fils aîné, qui a 7 ans à l'époque, me demande si je vais être je vais être un peu plus à la maison. Et je lui fais savoir que la grosse partie de mon travail se situe à la maison. Et il m'a répondu non, dans ton bureau.
Donc, vous abandonnez le pastorat.
Alors, j'abandonne pas le ministère pastoral, je demande une disponibilité pour convenance personnelle.
Oui, c'est ça.
Finalement, 4 ans après ma demande de disponibilité, je n'étais pas revenu dans le ministère. Et là, j'ai quitté le ministère pastoral. J'ai demandé à être rayé du rôle.
Voilà. Alors, quand on avait fait la séance préparatoire de cette émission, j'avais bien compris qu'il y avait autre chose, qu'il n'y avait pas que le problème familial, mais j'avais voulu respecter votre silence là-dessus. C'est bien ça, hein ?
Oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que je revienne vous demander vraiment de témoigner de vos problèmes ? Eh bien, l'article de Frédéric Rognon, dans l'ouvrage collectif dont on a déjà parlé ici à une matinale précédente avec d'ailleurs Frédéric, donc l'ouvrage collectif « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme » qui a été dirigé par la Fédération protestante de France. Ces articles et notamment celui qui traite de la spécificité des violences spirituelles et de pouvoir dans nos communautés, ont été pour moi, je l'avoue, une véritable secousse. J'ai bien connu des paroisses qui... Mais je n'avais jamais disséqué à ce point les ressorts de... Voilà. Donc, on va y revenir. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire, cet article de Frédéric Rognon ?
Tout à fait récemment, oui. Oui, j'ai lu cet article-là dans Violence spécifique au protestantisme. Je ne sais plus exactement le titre, mais oui.
C'était sur les violences spécifiques au protestantisme, où il explique que le problème des associations protestantes, c'est pas tellement le problème de violence physique, même s'il peut y en avoir. C'est surtout des violences de pouvoir, des violences spirituelles, voilà. Et alors, est-ce que vous avez été étonné en lisant cet article?
Ben, j'avoue que ça m'a renvoyé en fait aux expériences que j'ai vécues en paroisse.
C'est douloureux?
Non, pas du tout. Non. Si j'ai quitté le ministère pastoral et que je fais valoir que c'est plutôt des raisons personnelles, c'est qu'aussi j'ai voulu nier ces violences que j'ai pu vivre. Et alors j'ai voulu les nier déjà pour éviter de dire que je ne suis pas arrivé à les surmonter, que je suis peut-être pas arrivé à les gérer, que j'ai pas été un bon pasteur. Donc j'ai plutôt mis en avant. Voilà en fait ce
Donc,
que ça
si
m'envoie.
C'est-à-dire
presque la première chose à laquelle ça m'a renvoyé, c'est une forme de violence de moi-même vis-à-vis de moi-même pour dire bon mais j'y suis pas arrivé. Mais en fait j'ai vécu. Et c'est l'article met le doigt dessus. J'ai vécu des choses extrêmement violentes avec des gens avec qui pour lesquels j'aurais peut-être bien aimé avoir eu des violences physiques, leur mettre une baffe, parce que ils ont été d'une violence incroyable.
Mais d'une violence spirituelle, jamais il y a eu des violences physiques.
Non, des violences, oui, effectivement, spirituelles, personnelles, verbales, et symboliques. Quand, si vous voulez, à la fin d'une année d'un projet qui s'est extrêmement bien passé, Bible
Donc,
et Cirque.
Le projet de cirque.
Voilà, Bible et Cirque. Quand au mois de juin on fait le bilan et que tout le monde est content et que je reçois un jour de septembre un mail convoquant un CP extraordinaire pour réviser le projet Bible et Cirque
qui avait été validé auparavant
au mois de juin. Je reçois le matin la convocation pour un conseil extraordinaire et seulement sur le projet Bible et Cirque, Poscaté, Voyage. Je ne comprends pas bien, donc j'appelle mon collègue en disant d'où vient ce mail.
Ouais.
Parce que moi je ne l'ai pas vu venir, il n'y a pas eu d'écho de rien. Il me dit vaguement j'ai entendu des trucs, j'ai dit bon mais t'en dis trop ou pas assez, tu sais des trucs, tu sais pas. Il essaie de pas tout dire et... J'arrive au conseil presbytéral en me disant qu'est-ce qui se passe et en fait j'avais un doute. J'ai eu une intuition. En fait, il s'avère que de ces 6 enfants pour le groupe Poscaté, eh ben il y a un parent au conseil presbytéral qui était parent d'un de ces enfants et qui voulait. Et j'ai pas fait attention en fait, qui voulait nous aider pour le camp. Et je lui ai dit, écoute, on est 2 adultes, Sylvie et moi, on a 6 enfants. Voilà, Sylvie et moi, mon épouse, 6 enfants, on n'a pas besoin d'aide particulière. Et devant son insistance, j'ai toujours...
Il voulait venir avec son fils.
Il voulait venir au camp. Et c'est vrai que la première fois, je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin d'aide. Et j'ai toujours gardé cette ligne, on n'a pas besoin d'aide, pour éviter de lui dire, non, c'est un camp post-caté, un parent n'a rien à faire
là.
Parce qu'il y a son fils.
Bien
tout
sûr,
simplement.
Bien sûr.
Donc j'ai évité de dire ça par politesse,
oui.
Mais du coup je comprends que je fais partie d'une violence de pas dire les choses clairement. Et donc ce conseil extraordinaire c'est pour réviser le projet et je reçois des choses qui sont extrêmement violentes. On me dit qu'on ne m'a pas dit à la fin de l'année précédente les 2-3 remarques négatives qu'il y a eu, notamment une grand-mère qui trouvait que c'était fort de café, qu'au caté les enfants apprennent à jongler.
c'est pas marqué dans la Bible.
Mais bon,
dans la discipline.
Exactement, mais
Calvin n'avait jamais fait ça, peut-être.
J'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que ce conseil extraordinaire, ouais. Des petites choses comme ça. Ou alors, voilà, le président du conseil presbytéral de l'époque me dit, à ce moment-là, me dit, mais tu fais valoir que ton épouse est une professionnelle de l'animation, qu'elle a un diplôme et tout ça. On pourrait réfléchir à lui faire un contrat pour la payer. J'ai dit, mais il en a jamais été question, on cherche pas ça. Non, mais il dit, en faisant un contrat, on pourrait aussi décider de savoir si on en a besoin ou pas. Donc, en fait, il voulait lui faire un contrat pour pouvoir la virer. Enfin, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Donc, que des choses un petit peu passives-agressives, où on dit, on pourrait vous aider comme ça, mais finalement, on veut pas. On pourrait faire ceci. Délirant. Jusqu'à ce que, je sois un petit peu violent. En
ouais.
disant, le problème, c'est cette personne. Qui a voulu intervenir dans le camp, et je lui ai dit non en lui disant qu'on n'avait pas besoin, mais maintenant je vais lui dire non pour la bonne raison. Je ne veux pas de parents avec un enfant en post-caté, parce que le post-caté, pour moi, c'est le lieu où l'enfant doit vivre l'église en dehors de la sphère familiale.
Ouais.
Et là, on m'a accusé de vouloir arracher les enfants à leurs parents.
Arracher les enfants à leurs parents.
Oui, oui. Pour savoir que dans ce conseil... Il y avait cet homme et sa belle-mère,
ouais.
et que on avait aussi une femme et son fils.
Oui.
Enfin, la moitié du conseil était apparentée.
D'accord.
Depuis, il y a eu 2015, parce que c'était avant 2015. Depuis, il y a eu l'Église protestante unie et qui, dans la discipline, a fait en sorte qu'il n'y ait plus maintenant d'apparentés dans le sein d'un même conseil.
Ça, c'est une bonne chose.
C'était pas mal, mais effectivement.
Vous m'avez parlé aussi d'un argument comme quoi on vous a fait savoir que si vous mettiez quelque chose en place et que après, quand vous alliez partir, on ne pourrait pas continuer et que donc il valait mieux abandonner dès le départ. C'est délirant, ça, comme idée. Osé vous dire ça?
Ça, c'est assez formidable. Alors, c'était sur l'autre poste qui a suivi. On quitte la campagne, on s'installe en ville, on est refroidi avec mon épouse pour
ouais.
proposer des choses en église. C'est quelqu'un de l'église qui nous dit « Ah, mais j'ai entendu dire que Sylvie était dans l'animation, les arts du cirque, vous pourriez pas proposer quelque chose ?» Bon, du non, 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 pas tellement envie. Puis bon, on se laisse séduire,
ouais.
on retente quelque chose. On voit bien qu'il y a des gens... qui tique sur le côté cirque et temple, cirque dans le temple, des saltimbanques, enfin voilà,
oui.
deux univers qui
ouais.
s'entrechoquent. Bon, on arrive à ouvrir la discussion et tout semble aller. Et en conseil presbytéral, une partie du conseil nous dit, mais on ne sait pas si on va continuer parce qu'une fois que vous ne serez plus là, on ne pourra pas le refaire.
Donc, il faut garder des activités... permanente, les oreillettes, par exemple.
Ouais, mais encore une fois, je me dis finalement, parce que voilà, je me suis dit, alors c'est un rapport à la mort, à l'éternité, au fait de... Non, je pense maintenant à la lecture de l'article
ouais,
de Frédéric.
Oui, ouais.
Ce côté qui pourrait être passif-agressif, c'est bien, mais on n'en veut pas.
Ouais.
C'était super, restons-en là. Un côté on veut pas faire mal mais on te dit non quand même mais de manière détournée c'est une super expérience mais vu qu'on pourra pas le refaire quand vous serez parti alors bon moi à ce moment là je sais pas ça fait peut-être 2 ans que je suis là donc je suis là pour quelques années
oui,
quand même.
Oui, oui, oui,
2 ou 3 ans donc je pense pas déjà à mon départ mais voilà donc bon.
Et je voudrais qu'on revienne donc sur la démission, donc enfin sur la fin du projet cirque, donc dans la première. Vous dites que il y a un conseiller qui a mené la guerre contre vous parce que il n'était pas content que vous l'ayez empêché d'aller au camp post-caté où il avait rien à faire à ce moment-là. Et les autres conseillers, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, tout le monde est d'accord avec lui, le conseil il y a des débats, comment ça se passe?
Alors non, c'est-à-dire que je l'ai dit là juste au-dessus, il y avait sa belle-mère au conseil,
oui.
donc elle était partie prenante avec lui. Il y avait un autre binôme parental, un mère et sa fille et son fils, une mère et son fils qui étaient aussi partie prenante, qu'il avait réussi certainement
ouais.
à retourner, le président du conseil qui l'avait retourné, et puis quelques personnes qui sont restées silencieuses. Et pour avoir rediscuté, pas par la suite avec elle en disant, mais si vous étiez d'accord avec moi, pourquoi vous l'avez pas fait savoir? Elles m'ont dit, c'était pas si important que ça, c'était qu'un projet au fond. Et on s'est dit, bon, bah, que c'était pas sympa ce qui est arrivé, c'est sûr, mais que t'allais l'encaisser et que tu t'en remettrais. Mais là, tu démissionnes. Je dis, bien sûr que je démissionne. Ah, mais moi, je me
mets là, pas. Vous avez posé votre démission.
Ah, mais oui. Je l'ai annoncé ce même soir, oui, oui. Là, en conseil.
Et les gens n'ont pas, les conseillers, donc, qui étaient d'accord avec vous, n'ont rien dit.
Ils se sont dit que j'étais un peu excessif, que j'allais revenir sur ma décision. Or, le lendemain, j'appelle le président du conseil régional pour lui annoncer et lui dire, s'il faut que je t'écrive une lettre, je te fais tout, là. Et je démissionne. Et s'il faut, je ne reste pas jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Je pars en cours de route. Parce que là, ce qui vient de m'arriver, c'est délirant. Et comme personne n'a...
Et personne ne dit rien.
Alors, personne ne dit rien.
Ça,
et personne ne lève la main. Donc non, je me casse. Il s'avère qu'en plus, cette personne, je vais le dire, cette personne était au conseil régional.
Oui.
Et que plusieurs semaines plus tard, alors que des collègues m'ont appelé en me disant, Jérémy, t'es un peu excessif. Des collègues de la région, du consistoire.
Oui, oui.
T'es un peu excessif, ne démissionne pas.
Oui.
Non, on m'attaque moi, on m'attaque ma femme. Enfin.
Oui.
Et puis avec des arguments délirants.
Ouais.
Alors c'est peut-être
je
un côté prophétique.
Je rappelle que vous êtes un jeune pasteur à l'époque, qui donne toute satisfaction.
J'ai 31 ans, oui.
Voilà, qui est content dans son ministère, dans sa foi, etc.
J'ai fait mon premier poste, tout s'était très bien passé.
Et voilà.
Et. Quelques-uns de ses collègues qui m'avaient dit, Jérémy, t'es un peu excessif, ne démissionne pas, encaisse.
Oui.
Encaisse, traverse, ça va aller. Je maintiens ma démission. Et quelques-uns de ses collègues m'ont rappelé, quelques mois plus tard, en me disant, merci. Parce qu'au fond, t'as fait éclater quelque chose. Ce conseiller qui t'a fait chier en conseil presbytéral, qui était au conseil régional, a posé sa démission.
Ouais.
Donc voilà, on remercie quelqu'un qui, quelque part, a mangé le mur, qu'on a essayé d'aider juste en disant « t'inquiète, c'est qu'un mur, c'est pas très grave, serre les dents, tu vas pas perdre tout ton dentier et tu vas pouvoir traverser. »
Ouais.
Et surtout, c'est le seul conseil qu'on lui donne. « T'es jeune, c'est pas grave, encaisse. » Encaisse quoi ? Il y en a un qui a souffert, qui s'est sacrifié pour nous, pour qu'on n'ait plus à le vivre. Et il faudrait le vivre, mais alors on n'a rien compris à l'évangile.
Un qui a souffert pour qu'on n'ait plus à le vivre.
Celui pour lequel nous sommes en église. Oui, le Christ. Il y a un moment donné, il s'est sacrifié. C'est pas pour qu'on se sacrifie. Il a souffert. C'est pas pour qu'on aille jouir dans la souffrance. C'est pour qu'au contraire, on essaie d'éviter ces chemins. Et qu'en fraternité, on en trouve d'autres. Mais j'ai l'impression que finalement, le seul accompagnement spirituel qu'on peut attendre de collègues ou de conseils régionaux ou de présidents de conseil régional de l'église, c'est de dire « Ouais, mais t'inquiète, lui, il a souffert plus que toi, tu devrais pouvoir y arriver. » Ben non.
C'est une mauvaise théologie, tout ça. C'est ce que dit Frédéric Rognon. Je sais pas s'il le dit dans le livre, mais il le dit dans l'émission que j'ai faite avec lui. Sur cet article, c'est un mauvais usage du pardon, c'est-à-dire que et de l'amour. On dit aimez-vous, mais on ne parle pas de justice. Et donc au nom de l'amour, on excuse tout. Surtout que en l'occasion, on peut pas dire qu'il y ait eu un comportement vraiment amical et de ceux qui vous ont attaqué. Mais vous auriez dû pardonner parce que vous êtes pasteur.
C'est ça. Donc j'aurais dû pardonner à cette épouse de président du conseil presbytéral qui fait l'école biblique aux enfants, qui à la sortie d'un culte me jette mon enfant en me disant. Il ne peut plus être à l'école biblique. À la sortie du culte, devant toute la communauté, jette mon enfant en disant il peut plus aller à l'école biblique. Je dis, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'il croyait pas en Dieu. Je dis non, mais c'est un enfant de 5 ans.
Oui.
Elle a insisté pour dire, il a dit qu'il croyait pas en Dieu, il peut pas être à l'école biblique. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il m'a raconté du haut de ses 5 ans et demi.
Oui.
Ce qui s'est passé.
Oui.
Eh ben, elle a dit que Dieu punit les méchants et récompense les gentils, mais j'ai dit que je croyais pas à ce Dieu-là. Ah, je dis, ben alors c'est un problème théologique, on va le régler en conseil presbytéral. Et t'arrêtes de crier devant toute la communauté. Son mari l'a exfiltré, mais on en a jamais... Quand j'ai dit, on en parle en conseil presbytéral de ce qui s'est passé avec cette monitrice d'école biblique qui veut virer un enfant, qui se trouve être l'enfant du pasteur, ça la fout mal devant toute la communauté, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben non. Non, mais t'inquiète, elle a eu un petit problème, elle était un peu énervée, ça va mieux.
Donc le pasteur doit encaisser.
Donc le pasteur, il est là pour encaisser.
Et il encaisse parce qu'il est là au nom de l'unité.
Au nom de l'unité et au service de celui qui a encaissé, au-delà de tout ce que n'importe qui peut encaisser. Mais vous êtes fous, quoi. Il s'avère qu'en plus, cette dame, c'est le président du conseil régional qui, quelques mois plus tard quand même, plusieurs mois plus tard, bref, le président du conseil régional de l'époque m'appelle en me disant « Qu'est-ce qui se passe avec la femme du président du conseil ?» Je dis « Ben, rien, on se parle plus. » Non, mais là, elle appelle toutes les paroisses pour dire tout le mal qu'elle pense de toi. Donc forcément, ça arrive aux oreilles du président du conseil régional. Je dis « Mais il se passe rien, on ne parle plus depuis qu'elle a essayé de virer mon fils et depuis que, voilà, malheureusement, l'Église au niveau national, et j'étais délégué du conseil national, enfin délégué au synode national à ce moment-là, a ouvert la question de la bénédiction du couple de même sexe.
Ah oui.
Et elle était farouchement contre.
D'accord. Alors là, il s'est greffé
plein de choses.
Un autre problème.
Donc, j'ai pas vraiment été accompagné. Alors, quelque part, je demandais pas forcément à être accompagné. J'aurais juste aimé que ces personnes soient isolées ou accompagnées, elles, parce qu'elles font du mal.
Oui.
Et quelque part, oui, j'ai appris à encaisser, mais au bout d'un moment, non.
On n'est pas pasteur pour encaisser, déjà on ne gagne pas beaucoup, si en plus...
C'est parce que le problème, si on était célibataire, on pourrait encaisser.
Oui, oui.
Mais on a charge des familles et des enfants, famille, donc une femme et des enfants, et ce qu'on encaisse et qui déborde forcément, ça tombe sur eux aussi. Et donc là, je suis plus d'accord en fait. C'est pour ça que je mets en avant le côté raison personnelle. Oui, j'essaie de protéger ma famille en fait.
Ouais.
Parce qu'il y a des fois, j'arrivais plus à encaisser.
Vous m'avez dit aussi que quand on était pasteur, c'était souvent qu'on était considéré soit comme un chef, soit comme un larbin.
Alors, moi, c'est mon sentiment, les deux paroisses où il y a eu des conflits vraiment ouverts, où ça a explosé, hein. J'ai eu ce sentiment-là, cette expérience-là. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autres moyens de fonctionner que des rapports de dominant et dominé. Et souvent, elles arrivent quelque part masquées ou comme des loups cachés dans des brebis, parce que elles arrivent vers elles sont arrivées vers moi qui arrive pasteur en disant je suis à ton service, commande et je fais, tu vois, donc sois le chef. Non, c'est pas le rôle d'un pasteur que d'être le chef, et qui du coup se retourne et du coup m'ont traité comme un larbin. Et donc là non plus, je ne suis pas un larbin. Je ne suis pas chef, je ne suis pas un larbin. Mais il y a des personnes, ou en tout cas, peut-être on a tout ça, et j'invente rien dans la relation dominant-dominé, mais qui ne savent pas fonctionner autrement. Elles préfèrent être dominées parce que la place du chef est assurée. Et si la place du chef n'est pas assurée, elles sont prêtes à se sacrifier pour assurer la place du chef, et alors... traiter tout le monde comme des larbins.
Alors, on va faire une pause musicale et on va revenir sur cette histoire de place du chef.
Thank you.
retrouvant avec Jérémie reprendre cette évocation des problèmes qui sont malheureusement parfois rencontrés par des pasteurs et par d'autres personnes, mais là en l'occurrence il s'agit de pasteurs et malheureusement Jérémie n'est pas le seul. Donc la place du chef, donc si le pasteur n'est pas le chef, comme ça devrait être, puisque la place du chef doit toujours rester vide dans le protestantisme, mais vous dites que à ce moment-là il y a quelqu'un d'autre qui s'y met et puis qui prend tous les pouvoirs, quoi.
Qui prend l'autorité. Alors c'est vrai que dans l'article, ça renvoie à l'article de Frédéric Rognon où il fait travailler ensemble hein, autorité et pouvoir avec la question des règles en fait à laquelle tout le monde est soumis. Et si les règles sont pas si les règles sont enfreintes, il y a sanction. Et du coup, mais oui, il y a des personnes. Alors c'est peut-être tout le monde encore une fois, hein, mais il y a des personnes qui pour qui il est impossible qu'il n'y ait pas de chef. Donc, bon, ben déjà, pour moi, elles n'ont pas la même lecture de l'Évangile.
Oui, c'est sûr.
Parce que, tu le rappelais, en protestantisme, a priori, la place du chef est une place qui reste vide.
C'est Régis Debré qui le dit, mais bon, repris de...
Il le dit de toute une tradition
bien
biblique,
sûr,
où l'arche d'alliance est un trône,
un trône
sur lequel il n'y a
rien.
Personne.
Oui.
Mais il y a bien la place marquée.
Ouais.
Mais elle est vide.
Ouais.
Et effectivement, le trône sur lequel Jésus est monté, bon, ben c'est la croix.
Ah
ouais. Ouais, c'est pas une place, elle est marquée comme trône, mais il la vide de puissance, des termes de puissance. Mais il y a des personnes. Et encore une fois, je pense que c'est l'être humain aussi hein, qui est comme ça. Il a besoin de chef. Alors, il a besoin de chef pourquoi ? Faut se poser la question aussi. Pourquoi on a besoin de chef ?
Ouais. Se rassurer pour
effectivement pour se rassurer, mais je pense aussi pour trouver un coupable.
Ouais.
Si ça va pas.
C'est le bouc émissaire ça.
Et du coup c'est le bouc émissaire. Mais oui mais.
Alors donc là il y a une raison, donc effectivement Frédéric Rognon en parle aussi dans l'émission, il parle de et notamment des travaux de René Girard sur le bouc émissaire. Donc il y a ce besoin de bouc émissaire. Il y a le fait qu'il n'y a pas de sanction pour ceux qui dépasse les limites.
Alors, en effet, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est de voir que le conseil régional n'a pas de moyens, a priori, n'a pas de moyens pour sanctionner des comportements qui sont absolument abusifs de la part de certaines personnes. Et c'est vrai que Frédéric Rognon a raison quand il dit, finalement, à un moment donné, on n'ose pas dire à des gens qui donnent de leur temps pour l'Église, qui sont bénévoles. On nous rappelle ça, qui sont bénévoles. Parfois, c'est même les personnes mêmes qui sont mises en cause dans au sein de conseils ou d'Églises qui disent mais avec tout ce que je fais.
Oui, ah ben ça, on l'entend. Hein.
Mais écoutez, je vais vous rendre mon tablier et puis vous allez vous débrouiller avec tout le travail. Ça, il y a du travail à être au conseil presbytéral, on est d'accord. Mais voilà, tout ce truc de la bonne volonté, du fait que finalement, qui va pouvoir faire le travail ? Et puis, tout simplement, hein, la peur de la place vide.
Oui.
Qui est normalement la peur à laquelle.
Et puis, il y a le silence des autres, de tous ceux qui sont témoins des attaques, mais qui ne disent rien, comme on vient de le dire. Il est jeune, il s'en remettra. Faut pas faire de vagues.
Oui. Et alors c'est vrai que c'est assez intéressant aussi ce qu'il dit Frédéric Rognon sur l'Église quelque part. Il y a cette vision idéale que c'est pas un lieu où il y a des conflits. Alors dès qu'il y en a, on essaie de les taire parce que quand même en Église ça se fait pas.
Ah oui.
Et du coup. Ça me renvoie à cette petite notion que tu m'as demandé de définir et que Sylvie a très justement dans l'émission d'avant.
Ah oui, quand très on a justement, parlé de Bible et cirque.
Voilà, de l'incarnation.
Ouais.
Ça veut dire qu'on est dans un rapport idéal à l'Église et à la spiritualité et qu'on ne l'incarne pas, c'est-à-dire à savoir avec tout ce que comporte de lourdeur et aussi de beauté notre condition humaine qui est prise dans les conflits, pleine de contradictions, de désirs. De soif de reconnaissance, tout ça s'exprime en fait.
Et finalement, dans les AG, dans les assemblées générales, il faudrait que les gens posent des questions, demandent comment ça se passe, pourquoi il y a des attaques, etc. Mais les gens ne disent rien, ils laissent faire.
Oui et non, enfin, c'est-à-dire que dans les assemblées générales, la plupart du temps, les personnes se sont, enfin, ont les informations que le conseil a bien voulu laisser passer.
Oui.
C'est ça aussi, c'est que parfois on aura tendance à se censurer, à pas montrer les problèmes en AG, parce que c'est aussi parfois dans ces AG qu'on va recruter des nouveaux conseillers, qu'on va les élire. Alors si on les fait flipper, ben voilà, c'est tout ce truc où finalement on se fait une violence à nous-mêmes. Pour être sûr pour montrer que tout va bien et pouvoir recruter d'autres personnes qui vont se rendre compte au bout de deux conseils, hein.
Alors, je voudrais terminer sur deux choses très rapidement parce que il nous reste plus beaucoup de temps. Cet article de Frédéric Rognon, il vous a fait du bien ou il vous a fait du mal?
Il m'a fait du bien. J'aurais aimé qu'il arrive 10 ans plus tôt. Je pense que ça aurait changé des choses pour mon parcours. Je regrette rien. Voilà, ceux qui ont entendu les émissions précédentes où j'interviens, je ne suis plus pasteur, je suis prédicateur, je suis au conseil presbytéral de l'église, de mon église locale. Voilà, je regrette pas mon parcours. C'est vrai que pour moi, il arrive un peu tard, et en même temps, il m'a fait du bien parce qu'il m'a permis de me rendre compte que je me faisais une violence à moi-même en ne disant pas forcément les vraies raisons pour lesquelles je me suis mis à l'écart du ministère pastoral.
Vous ne regrettez rien finalement, parce que quand même, quand je vous entends, vous étiez un bon pasteur, vous pouvez apporter beaucoup. Et le protestantisme, je voudrais quand même qu'on termine là-dessus, c'est quand même une religion qui est chouette. Moi, je fais des tas d'émissions avec des gens qui viennent dans le protestantisme, qui rejoignent, et c'est quand même dommage que vous soyez parti.
Alors, je suis parti, oui et non. Si j'ai un regret aujourd'hui, c'est de pas avoir assez de temps pour faire de la théologie. Parce que quand on est pasteur, on a du temps pour faire de la théologie. J'en ai moins, j'en fais toujours un peu. Même dans la vie de tous les jours, on fait de la théologie, mais voilà, il me manque voilà cette stimulation théologique qu'on a dans le ministère pastoral. Parce que j'avais quand même des lieux de stimulation théologique dans le ministère pastoral, pourvu que ça dure.
Merci beaucoup, Jérémy Duval. Merci pour ce témoignage. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent réagir au mail des émissions protestantes, donc à un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org, ou simplement à contact@radiofmplus.org. Voilà, merci à nos auditeurs de leur fidélité. Au revoir.